Vous écoutez France Culture.
Le magazine de l'environnement. On revient ce matin sur une catastrophe épouvantable et sur la gestion peut-être encore plus épouvantable par un État qui avait promis de tout faire pour le mieux. Veit Stratmann, vous êtes un artiste. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes rendu à L'Aquila en Italie? Pas pour des raisons touristiques, mais précisément pour des raisons artistiques.
Ben, c'est une histoire qui est liée avec une aventure que j'ai vécue avant, qui était ce projet que j'ai fait par rapport aux déchets nucléaires dans l'Aube.
Vous étiez venu à Terre à Terre, d'ailleurs.
Voilà, j'étais venu à Terre à Terre. Et ce premier projet avait généré un questionnement, voilà, duquel je pensais à un moment qu'il avait généré une forme, celle que j'ai produite, mais qui pouvait aussi générer potentiellement d'autres formes. Donc je l'ai soumis à un certain nombre de personnes, ou je souhaite encore le faire, pour voir si quelqu'un trouve une des questions pertinentes et a envie de répondre d'une façon qui lui convient.
Quelles questions ? Donnez-nous deux, trois exemples.
Par exemple, est-ce que la notion de la mémoire stable existe ou est-ce qu'elle n'est pas forcément interprétée par la société qui la porte? Est-ce qu'un geste comme la construction d'un un site de stockage nucléaire ne constitue pas aussi d'enlever aux générations futures une portion du temps, de leur temps, et avec quel degré nous les privons de leur accès au temps? Comment faire qu'un lieu qui doit être hors monde peut exister dans le monde, hors monde, j'entends, en dehors du temps, en dehors de l'emprise du temps et en dehors de l'emprise sociétale et politique.
En quoi est-ce que ces questions pouvaient se rapporter à L'Aquila ?
Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai soumis à une amie architecte qui faisait tout de suite le point avec L'Aquila en disant qu'elle a l'impression que la question de l'endroit qui est tombé hors temps et qui est tombé hors société, hors politique, fait écho avec la situation de L'Aquila. Et c'est quelque chose qui me fascine, qui me perturbe énormément, cette idée d'un lieu qui est dans le monde, mais qui n'y est pas en même temps.
Vous y êtes allé ?
Je suis allé. Enfin, elle m'a dit, j'ai fait un voyage d'études avec mes étudiants. Je lui ai dit, je me joins à vous, et j'y suis allé. Oui. Et c'était ça, c'était la raison, c'était cette réflexion de cet ami, de dire, voilà, il y a des donnes qui ne sont certainement pas conditionnées par les mêmes raisons, mais il y a des donnes qui semblent s'appliquer là-bas aussi.
Vous pouvez nous décrire ce que vous avez vu ? C'est resté clair dans votre mémoire, ou bien est-ce que depuis, les impressions sont contradictoires, plus floues ?
Il y a deux niveaux. Je peux décrire matériellement, mais je dois aussi parler d'un certain nombre de réactions que j'ai eues, de sentiments, d'impressions qui ne sont pas de preuves, mais qui sont quand même à la base de ce que pourrait être ma réflexion d'artiste. Donc j'y suis allé et ce qui m'a étonné, c'était que c'était une ville qui était parfaitement existante. Elle est là. Tout est là. En même temps, ce qui manque, c'est la chose qui donne sens à cette ville, à savoir la vie. Il y a des chiens errants qui se promènent, il y a des gens, un certain nombre de personnes qui circulent, il y a des magasins qui sont ouverts dont je ne sais pas si c'est complètement légal ou pas, parce que théoriquement, il y a une interdiction complète d'habiter dans l'ancien centre historique de la ville. Et comme la chose étonnante, comme pour stabiliser la ville, parce qu'on ne sait pas la statique des bâtiments, hein. Il y a une espèce de monstrueux exosquelette qui est construite autour de chacun des bâtiments.
Un exosquelette ?
Ouais, c'est comme un exosquelette, c'est comme des énormes échafaudages qui sont construits à la fois à l'intérieur des immeubles. Il y a un châtelain qui a montré l'oratoire de sa famille, mais dit que ça lui coûtait moins cher maintenant d'abattre le bâtiment gothique que de sortir les échafaudages. En plus, on utilise le terme échafaudage, mais en même temps, ce sont des structures qui sont construites avec une telle complexité et avec des matériaux tellement chers que finalement, ça a absorbé pratiquement tout l'argent pour la reconstruction de la ville.
Mais je ne comprends pas, je n'arrive pas à me représenter ce que vous décrivez. Ils sont à l'intérieur des maisons ?
Non, à l'extérieur. Et c'est-à-dire que chaque pâté de maison est entièrement entouré d'une structure métallique ou en bois, comme des sortes de... Mais c'est de la haute métallerie, c'est même pas de l'échafaudage. Donc il y a des structures qui portent chaque pâté de maison, sans qu'on sache si c'est vraiment nécessaire, parce que jamais des sondages ont été faits, des tests ont été faits. Un certain nombre de bâtiments sont aussi remplis d'échafaudages, de structures portantes.
Mais ce n'est pas juste un échafaudage de temps en temps. Vous parlez de pâté de maison entière, Faye Stratman.
Non. C'est que tous les bâtiments sont systématiquement pourvus d'un échafaudage. Et chaque échafaudage est lié avec celle de l'immeuble voisin. Ou ce sont des pâtés hommes de maison entières qui sont entourés. Bon, ça, c'est l'impression la plus forte, de voir que tout est soutenu. Et ce qui est très étonnant, c'est très choquant, c'est que ces échafaudages sont faits de telle façon qu'ils bloquent les entrées des immeubles et tout. Et en fait, il y a cette interdiction pour les habitants de l'Aquila de retourner dans la ville. Et ces échafaudages, de par leur structure, sont comme la matérialisation de cet interdit. C'est-à-dire que la manière... L'outil censé de sauver la ville est en même temps l'outil qui détruit la ville socialement. C'est une chose très étonnante. Parce qu'en Italie, c'est quand même la città qui est le cœur de l'espace politique et social. Et cet exosquelette qui est là, qui n'a pas seulement absorbé de l'argent, mais qui bloque aussi, c'est là vraiment la matérialisation de la destruction de l'espace social et politique de la ville. Et ensuite, il est aussi le symbole ou la matérialisation de la destruction du temps dans la ville. Et c'est ça ce qui m'a choqué.
De quelle manière ?
Parce que comme il n'y a pas d'habitants, tout est là. La ville est potentiellement fonctionnelle. Les rues sont là, l'infrastructure, tout ce que vous voulez. Les rues sont éclairées.
L'éclairage public continue à fonctionner ?
L'éclairage fonctionne, ouais.
Les transports publics ?
Non. Par contre, à Noël, il y a des décorations à Noël. Et devant certaines bars qui sont ouverts, à nouveau, je ne sais juger si c'est légal ou illégal, il y a des haut-parleurs qui remplissent l'espace avec de la musique pour faire comme si la ville était habitée. On voit 3-4 personnes, mais il y a un bruit tel qu'on a l'impression d'être dans une ville vivante.
Mais il y a une activité encore dans cette ville ?
Non, il n'y en a pas. Enfin, dans les zones extérieures, mais pas dans le centre-ville. Mais ce que je voulais dire, ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait que quand vous vous promenez, comme il y a fonctionnalité de la ville, mais en même temps absence de gens, c'est comme si le temps avait évaporé et c'est la personne qui se promène qui transporte le temps avec elle. C'est comme si vous promenez dans une rue, derrière vous, il n'y a plus de temps, devant vous, il n'y a pas encore de temps, et le temps est exactement à la hauteur où vous vous trouvez. Et elle bouge avec vous. Et c'est très étonnant, et à aucun moment... Pour moi, il m'était possible de trouver une synchronisation entre mon temps, le temps d'un être vivant, d'un être humain vivant, et le temps ou le non-temps de cette ville. J'étais un élément temporel dans une structure qui n'était pas morte, mais hors temps. C'est une ville zombie, si vous voulez.
Dans ce que vous décrivez, Faye Stratman, on a un sentiment d'isolement total, c'est-à-dire comme si vous étiez intégralement seul. Ça veut dire que non seulement vous ne pouvez pas vous relier à la ville de l'Aquila, mais vous ne pouvez pas non plus vous relier à des habitants. Il n'y a pas de traces, il n'y a pas de signes de vie qui pourraient faire que d'autres temporalités seraient là, qu'il y aurait eu des passages, qu'il y aurait eu...
Non, il y a un certain nombre de personnes. Il y a des gens qui sont là.
Oui, mais là, ce que je vous demande, c'est si ça s'inscrit d'une manière ou d'une autre.
Oui, non, mais je voulais y venir. Ça, mais comme on a l'impression forte que l'espace social et politique a disparu, certes, il y a des gens, mais il n'y a pas de lien entre les gens. Donc, on est seul. On est seul, même s'il y a quelqu'un à côté. Et la temporalité existe dans chacun, mais il n'y a pas de lien entre deux personnes. Bon, je me suis promené avec cet ami, et évidemment, il y avait un lien temporel entre nous deux, parce qu'on se promenait ensemble. Mais quand on rencontrait d'autres personnes, il n'y a absolument aucun lien qui peut s'installer. C'est comme si cette ville était dans le monde, mais en même temps, elle n'y est pas.
Il me semble tout de même que vous avez vu à un endroit des traces des anciens habitants, sous forme de tricot, je ne sais plus exactement.
Non, ça c'est autre chose. Ça, c'était une des choses les plus tristes que j'ai vues. Il y avait plusieurs actions pour amener, entre guillemets, de la vie à l'ancien centre-ville de l'Aquila. L'une qui est, à mon avis, influencée par le yarnstorming, c'était une sorte de tag tricoté qui vient de la côte ouest américaine, qui s'est propagé vers l'Europe. Entre-temps, qu'on tricote l'habillement pour un monument, enfin, c'est pas tagué à la bombe, mais tagué au tricot, quoi. C'est une chose très étonnante. Donc, les gens ont invité d'autres personnes de leur donner des morceaux de tricot qu'ils ont cousus ensemble, à mon avis, dans l'idée du tissu social, de la cohérence sociale. Et avec ça, ils ont couvert un certain nombre de parties de bâtiments, d'escaliers, de câbles téléphoniques, d'arbres, enfin, plein des endroits un peu épars comme ça. Seulement, tout projet visuel est dirigé vers un potentiel spectateur. Sauf qu'il n'y a pas de spectateur. Donc, au lieu d'apporter de la vie, c'est comme si ce projet augmentait le désespoir. Parce que c'était un geste, mais qui a terminé dans le vide, qui n'avait pas de rependant. Il y avait un autre geste qui était devant un bar à l'angle de la place de la cathédrale. Il y avait des post-it et les gens étaient invités de laisser des messages d'amour à l'Aquila sur des post-it collés sur le port du bar. Là, la même chose, comme il n'y a pas de public, on envoie un message, mais à qui? Et c'était pour moi, c'était le moment qui m'a posé le plus de problèmes, parce que je me suis quand même promené là-dedans en tant qu'artiste. Et évidemment, avec la question, est-ce que je peux faire quelque chose? C'est sûr. Mais il me semblait, il y avait une sorte de double perversion dans la situation. L'une était de dire, l'art par nature est vivante. Mais si je ramène quelque chose, un geste artistique dans l'Aquila, ce geste artistique devient une sorte d'ersatz pour la vie qui a disparu dans la ville. Mais l'art, par nature, ne peut pas être ersatz de. Donc, du coup, l'art disparaît. Le geste devient inutile. En plus, il n'y a pas de public, donc le geste est aussi inutile. Donc, chaque chose que je pouvais faire en rajoutant dans la ville disparaissait.
C'est comme la matière noire.
Oui. Oui, c'est ça. L'Aquila, en fait, est un trou noir, est un trou de sens. À la fois un trou de sens et un zombie. Parce que la ville est ni vivante ni morte. Souvent, quand je décris l'Aquila, enfin, ce que j'y ai vécu, les gens me disent, mais c'est comme Pompéi. Et non, parce que Pompéi est mort. Pompéi est à un état clair. L'Aquila n'est pas mort. Et pas vivant non plus. Ou quelqu'un m'a dit aussi, c'est comme des villes ghost towns dans l'ouest des États-Unis. C'est pas du tout ça. Parce qu'une ghost town est abandonnée consciemment par les gens. Ils veulent plus y être. Ils laissent derrière eux ce dont ils n'ont pas besoin. Là, les gens étaient évacués, en grande partie contre leur gré. Ils veulent revenir, mais ils ne peuvent pas. Donc c'est une ville hors temps, en attente, morte sans l'être. Donc ce n'est pas du tout comme ces villes-là qui ont été abandonnées, qui n'ont plus de fonction.
Thank you.
Michela Di Carlo, vous êtes née à L'Aquila, en Italie?
Non, je suis née à Milan, mais toute ma famille vient de L'Aquila et mes parents étaient dans le nord de l'Italie pour travailler et je suis revenue toute petite à l'âge de 1 an, 2 ans à L'Aquila. Et j'ai grandi, je suis restée jusqu'à mes 19 ans.
Ensuite, vous êtes partie, vous êtes venue faire vos études et vivre en France. Mais est-ce que vous étiez là en 2009 quand il y a eu ce tremblement de terre terrible?
Donc, je suis rentrée dans ma famille une semaine auparavant pour faire une surprise à ma mère, pour fêter son anniversaire. Et donc, j'ai assisté à une première secousse assez forte le jour avant mon départ. Je suis partie et moins d'une semaine après, il y a eu la secousse la plus importante avec tous les dégâts et les morts qui ont suivi.
Il y avait eu des secousses déjà avant donc?
Oui, beaucoup de secousses. En fait, ça faisait plusieurs mois qu'il y avait des alertes, des secousses plus ou moins fortes. Et quand moi, j'étais arrivée voir mes parents, les secousses devenaient de plus en plus importantes. Il y avait des bâtiments qui avaient été évacués, des écoles. Donc l'alerte était assez grande. Les experts s'étaient réunis. Il y avait eu donc la convocation de cette célèbre commission grand risque, une commission établie par l'État, qui avait déclaré, suite donc à cette secousse à laquelle moi j'avais assisté, qu'il fallait rester calme et tranquille, qu'il n'y avait pas de risque de grand tremblement, de tremblement de terre importante, et qu'au contraire, le fait qu'il y ait un essaim sismique, il appelle comme ça, important, ça voulait dire que l'énergie de la Terre s'est déchargée petit à petit, donc ça laissait penser qu'il n'y aurait pas eu d'épisode majeur. Ils ont été démentis une semaine après. Ça, c'était le premier grand scandale, on va dire. Moi, je n'ai pas assisté en première personne aux événements, donc le traumatisme, pour moi, est de type différent. Mais ce qui est choquant quand on assiste et qu'on écoute ça de l'extérieur, c'est que les gens de L'Aquila savaient très bien qu'ils habitaient dans un territoire sismique. Et moi, j'ai eu le sentiment que la commission Grand Risque, elle a enlevé aux gens ce que les gens savaient pertinemment, c'est-à-dire qu'effectivement, le risque il pouvait exister, que dans notre région, il y avait eu beaucoup de tremblements de terre, que dans la construction de la ville, c'est quelque chose de très important, parce que ça a pris des années, la construction de cette ville, à cause d'une suite de tremblements de terre, au Moyen-Âge, qu'il y en a eu un autre très important en 1703. Et moi, j'ai des souvenirs de tremblements de terre. On a beaucoup ressenti les secousses qui avaient intéressé l'Ombrie. Et on savait, moi à l'école, on m'avait appris comment il fallait évacuer un bâtiment, où est-ce qu'il fallait se mettre dans une maison. Et donc, le fait que tout cela soit refoulé parce qu'on nous dise qu'il n'y a pas de risque, j'ai trouvé ça très étrange. Alors que ça faisait partie un peu des récits familiaux et de ce que tout le monde savait. C'est-à-dire, oui, non, dans un endroit comme L'Aquila, le risque existe et s'il y a une secousse, il faut sortir. Et s'il y a des alertes, il faut sortir. Donc il y a beaucoup de monde qui ont quand même gardé ça à l'esprit et qui ont dormi plusieurs nuits de suite en voiture. Et il y en a qui ont sauvé leur peau comme ça. Mais que dans le cas, par exemple, de bâtiments publics à responsabilité publique, comme c'était le cas du collège universitaire, je trouve gravissime cet oubli, en fait. L'oubli de quelque chose qu'on sait depuis des générations m'a beaucoup frappée. J'ai trouvé ça très étonnant.
Cet oubli, c'est-à-dire qu'on n'a pas évacué les étudiants qui dormaient dans ce bâtiment?
On a estimé, à la demande des étudiants qui réclamaient de savoir les conditions de sécurité du bâtiment, qu'il n'était pas nécessaire de l'évacuer. Or, le bâtiment, il s'est effrité. Il n'existe plus. Et donc, oui, il y avait des étudiants. Il y en avait certains qui habitaient dans la région, qui étaient répartis chez eux, quand même inquiets. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait, qui sont restés confiants. Il y a sans doute des responsabilités. Après, il y a aussi une dimension psychologique claire. Quand on habite dans un territoire où pendant des mois, il y a des secousses, il faut vivre avec. Et on ne peut pas vivre avec l'idée qu'on va mourir d'une seconde à l'autre. Donc, de fait, on s'y habitue.
On s'habitue et du coup, on ne sait plus où est le déclencheur. On sait que le risque est là. Mais à partir de quand est-ce qu'on doit prendre en compte ce risque?
Oui, c'est ça, exactement. Et je pense que le fait que des experts se soient prononcés là-dessus, ça a enlevé aux gens cette maîtrise du moment, justement, du moment clé où il aurait été mieux de sortir. Parce qu'en plus, avant la grande secousse, il y avait eu dans la même soirée des secousses. Donc, si les gens, au lieu d'avoir été rassurés, étaient restés sur leur degré d'alerte de base, probablement il y aurait eu moins de morts. Ça, on ne peut pas le savoir, évidemment.
Il y avait combien d'habitants et il y a eu combien de morts? Il y a eu des centaines de morts.
Il y a eu 309 morts, il me semble. Donc, L'Aquila, elle compte un peu plus de 60 000 habitants. En plus, il y avait les étudiants. Il y en a beaucoup, plusieurs milliers d'étudiants. Et le territoire qui était intéressé par le tremblement de terre dépasse la commune de L'Aquila. C'est beaucoup plus étendu et je pense que le nombre des habitants est plus important que 60 000.
Donc des morts, des blessés, quelques milliers de blessés, et puis surtout une ville et des villages autour, vous le rappelez, Michela Di Carlo, détruits.
Pour ceux qui ont perdu des proches, c'est absolument terrible. Mais la mort d'une ville, tant qu'on ne l'a pas vécue, on ne sait pas ce que ça veut dire. La mort d'une ville, la mort d'un village qu'on connaît, on comprend vraiment l'importance pour l'homme de construire son propre milieu. Et se retrouver tout d'un coup sans rien, c'est très dépaysant et c'est un deuil qui est très difficile à faire. De perdre le monde dans un sens philosophique, c'est-à-dire le monde des objets du quotidien, où on a des repères, où on s'oriente. Et je trouve que les personnes qui l'expliquent le mieux, qui le ressentent le mieux, c'est les vieux, pour qui c'est beaucoup plus troublant, parce que c'est plus difficile de construire du nouveau, et que parfois, une vieille personne de 80 ans arrive très bien à s'orienter dans une ville qui connaît comme sa propre maison. En plus, le centre de L'Aquila était un centre très habité, où il y avait beaucoup d'activités, et donc les personnes étaient maîtres de cet espace. Bah, le perdre, ça leur a enlevé leur sens de l'orientement et ils avaient du mal à se réadapter et ils ont toujours du mal à se réadapter à d'autres endroits. Et je trouve que chez eux, chez les vieux, on voit de manière amplifiée ce qui s'est produit chez toutes les autres catégories de la population, mais qui réagissent différemment, qui ont plus de capacité après à se réadapter à un milieu différent. Mais cette perte de repères, elle reste et je pense que psychologiquement, c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal.
Tout de même, à l'époque, très rapidement, le gouvernement italien, c'était Berlusconi à l'époque, a fait des déclarations très fermes d'une volonté immédiate de reconstruire. Il y avait la promesse qu'on allait refaire une ville autour de la ville et une ville qui plus est, qui serait tournée vers l'avenir, une ville écologique, une ville pour ses habitants. Donc il y a eu quand même une réaction très rapide du gouvernement italien, Michela Di Carlo.
Donc, c'est très compliqué parce que la première réaction du gouvernement italien a été « on ne reconstruira pas la ville, on va construire des nouveaux bâtiments, un nouveau pôle, New Town, comme aimait le dire Berlusconi à l'époque, et on ne va pas reconstruire l'ancien ». Sur ce, la ville a immédiatement réagi, le maire aussi a réagi, le projet a été modifié. Mais pas dans son essence, puisque l'idée, c'était de fournir des logements provisoires aux gens qui en avaient besoin. Et ces logements provisoires ont abouti à créer des îlots assez importants de bâtiments en dur qui resteront à L'Aquila, qui font partie maintenant du patrimoine immobilier, qui sont des immeubles qui ont coûté extrêmement cher, qui, on découvre aujourd'hui, sont de très, très mauvaise qualité. Et qui ont concentré la plupart de l'argent. C'est-à-dire que pour répondre à l'urgence habitative produite par le séisme, on a dépensé une somme d'argent démesurée et on n'a pas réfléchi dans l'urgence comment reloger les gens à moindre frais et avec l'idée que les gens devaient récupérer leur maison au plus vite. Donc on a parié sur le fait de leur donner un nouveau logement. On leur a dit ce logement n'est pas votre logement définitif, vous allez bien sûr récupérer votre maison, mais on a parié sur un projet qui prévoyait de garder les gens dans des nouvelles maisons pour des années. Et donc on donnait des messages qui étaient complètement contradictoires. La reconstruction, elle va aller très vite, et elle va aller très vite, mais on prévoit de nous reloger pendant 10 ans. C'était bien étrange. Et donc c'était des maisons qui étaient appelées des maisons provisoires définitives. Donc ça aussi, c'était un étrange jeu de langage. Et c'était un moment où, à mon sens, la population n'a pas voulu prendre la mesure de ce qui se passait. Il y a vraiment une petite poignée de gens qui ont réagi très vivement, qui ont senti l'arnaque, qui ont compris que c'était la condamnation du centre-ville et de la vie comme on la connaissait avant, que notre mode de vie allait être complètement chamboulé et qui ont essayé de réagir, mais qui sont restés, somme toute, très minoritaires. parce que la peur des gens, c'était de ne jamais retrouver une maison, de ne jamais être relogé. Ils ont passé des mois dans les campements, et ça, on oublie souvent de le dire. Le gouvernement a promis que très vite, la ville aurait été reconstruite. Pour le pari qu'il a fait, il a obligé les gens à se retrouver dans des campements pendant plus de 6 mois. Et 6 mois, c'est un temps énorme.
On va revenir sur les campements, mais je voudrais quand même qu'on reste sur cette idée de construire une nouvelle ville, mais ne pas reconstruire l'ancienne. Quel était le projet réellement, d'après vous? Pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas reconstruire l'ancienne? La ville était vraiment en trop mauvais état?
Alors, la ville était bien sûr en très mauvais état. Bien sûr, ça demande de reconstituer le patrimoine de cette ville, demande des sommes d'argent assez importantes. Il faut se souvenir qu'en 2009, c'est quand même le cœur d'une grande crise économique. Ça a beaucoup joué, je pense, sur les destins de l'Aquila. Et une des manières pour faire face à la crise, c'est de bâtir. Ça a toujours été ça. Donc, l'Aquila était une occasion rêvée, c'est-à-dire qu'elle pouvait permettre de faire remonter de manière fictive l'emploi et sa capacité productive, parce qu'elle allait donner un élan à un secteur immobilier qui était impossible à espérer ailleurs. Donc l'idée de reconstruire une autre ville, Berlusconi, c'est quelqu'un qui a construit beaucoup de nouveaux quartiers, notamment à Milan. Il est célèbre pour ça et pour ses télévisions. Donc bien sûr que sa première idée, c'est on va construire du neuf. Après, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des grosses déclamations pas trop réfléchies. C'est là, elle n'était pas réfléchie. Et c'est pour ça que je pense, avec des gens un peu plus futés et posés que lui, la question s'est résolue en disant « Mais bien sûr, on va restaurer le centre-ville, mais en attendant, il faut loger ces gens et nous ne voulons plus loger les gens dans des habitats qui ne sont pas à considérer comme des habitats dignes et agréables, comme on avait vu en Italie, en Irpigne et à d'autres endroits où c'est des containers commerciaux qui sont transformés en habitations. Et effectivement, il y a eu des familles qui ont habité dans des containers pendant 20 ans. Donc tout de suite, on a beaucoup parlé de ça. Et il s'est servi de ça comme cheval de Troie en disant, vous voyez, on ne fera pas de conteneurs, on va faire des maisons antisismiques. En plus, ensuite, elles vont rester à la ville. Qui pourra les utiliser pour accueillir les étudiants? Parce que l'université de l'Aquila va gagner en splendeur et elle aura de plus en plus d'étudiants. Ça va devenir un véritable pôle de recherche très important pour le pays. Et ensuite, on reconstruira le centre-ville. La vérité, c'est que le centre-ville demandait une intervention assez rapide, intelligente, qu'il fallait très vite comprendre ce qui pouvait être sauvé et ce qui ne le pouvait pas, et qu'en même temps, il y avait beaucoup d'habitations qui avaient été endommagées, mais dont la structure n'avait pas été endommagée. Et moi, je pense que l'interdiction de rentrer dans cette maison était ce qui a tué la ville. On a nourri la peur des gens. Les gens pouvaient très bien rentrer chez eux si dans leur maison, les enduits avaient été endommagés et qu'il n'y avait pas de danger pour la vie parce que la structure du bâtiment avait tenu. Ce n'est pas le choix qu'on a fait. On a mis tout le monde dehors. Et même sur des maisons qui avaient des dégâts assez peu importants, on a dit on va intervenir. Et d'ailleurs, on est intervenu d'abord sur ces maisons qui avaient été moins endommagées, soi-disant pour permettre aux gens de rentrer. Moi, maintenant, aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'est ça la stratégie qu'on n'avait pas compris. Nous, on aurait dû réclamer que les gens puissent rentrer chez eux dans ces cas où les structures des maisons n'avaient pas été endommagées et qu'ils rentrent comme ça et que ce soit les derniers qui accèdent aux travaux puisque eux, ils avaient un endroit où habiter. Ça aurait été plus intelligent. La ville, elle ne se serait pas dépeuplée si vite. Parce qu'en fait, les temps d'attente pour les travaux ont varié de 1 an à 3 ans. Même pour des bâtiments qui n'étaient pas forcément en très mauvais état, ce qui a fait que, par exemple, les gens qui avaient de la famille ou des gens ont eu tendance à quitter la ville parce qu'après avoir passé 1 an, 2 ans ailleurs, on finit par s'y faire. Et en plus, quand on revient dans la ville, elle ne ressemble plus du tout à ce qu'on connaissait avant. Donc là, il y a quelque chose qui s'est vraiment joué, qui était important et qui a favorisé, qui a permis une grosse spéculation, une double spéculation immobilière. Voilà, d'un côté, on construisait du neuf à un prix très important, donc on a énormément construit, et de l'autre côté, on attribuait des chantiers pour des travaux qui n'étaient pas urgentissimes et pour lesquels on a attribué une somme d'argent, là aussi, largement au-dessus des prix du marché, pendant qu'on essayait d'étayer le centre-ville à des prix faramineux. Enfin, c'est ce scandale qui est connu, qui était relaté aussi dans la presse française, parce que rien que pour étayer un édifice historique, c'était des millions d'euros qui étaient dépensés, en sachant que ça coûte presque autant d'enlever l'étayage. Donc, ils ont paralysé le centre-ville, peut-être d'ailleurs sans aucune utilité. Je ne sais même pas si les étayages qui ont été mis effectivement permettent de sauvegarder les bâtiments. Le fait est que le centre-ville est à l'arrêt. Il y a quelques restaurations qui commencent maintenant. Mais grosso modo, aujourd'hui, on peut s'y balader, on peut regarder les ruines. Il y a des rues qui sont interdites où la végétation a repris le dessus. Et après, il y a une partie de la ville qui était rouverte, où il y a que des bars et des cafés qui restent ouverts jusqu'à très tard la nuit, parce que maintenant, il n'y a plus le problème de la cohabitation entre les habitants et les fêtards. Et donc, il y a la musique à fond jusqu'à 3-4 heures du matin, parce que la ville, c'est une ville fantôme et qu'il n'y a rien, et que donc, on peut s'y amuser tant qu'on veut, puisqu'on ne gêne personne.
Si on vient un peu en arrière, Michaela Di Carlo, il y a eu ces mois passés dans les camps qui avaient été organisés en urgence. Là aussi, il y a des histoires tout à fait étonnantes.
Non, les camps sont organisés très vite après le tremblement de terre, un grand nombre. Disons que chaque village autonome, en gros, avait son camp. Il y en avait plusieurs dans la ville.
C'était des camps de toile ?
C'était des camps de toile. Donc, ce qui est tout à fait respectable et entendable pour le début de l'urgence. Sauf que cette habitation, cette manière d'habiter très précaire, où on se retrouvait en tente dans les situations les meilleures avec toute notre famille, ça veut dire qu'il y avait des regroupements familiaux qui n'existaient pas auparavant, des couples qui avaient divorcé qui se retrouvaient à nouveau dans les mêmes tentes parce qu'ils avaient les mêmes enfants, et pour essayer d'être dans des situations, disons, connues et familières, on finit par se retrouver à nouveau ensemble. Sinon, on se retrouvait en tente avec des gens qu'on ne connaissait pas. Les tentes, elles logeaient jusqu'à 8 personnes. Donc ça veut dire que quand on parle, comme je disais tout à l'heure, de personnes qui ont vécu dans les camps pendant 6 mois, on a vécu pendant 6 mois dans un endroit où il n'y a aucune intimité, dans une situation de choc psychologique, où tout ce qui est remâché, c'est tout ce qui s'est produit et ce qu'on a vécu dans le tremblement de terre, et il n'y a pas d'en dehors, parce que la ville dehors est détruite. Et d'ailleurs, le camp est symbolisé par le fait d'être entouré par du grillage, un contrôle à l'entrée et à la sortie du camp, l'obligation de présenter sa carte d'identité, l'obligation de déclarer si on recevait des visites, l'interdiction de loger des gens, donc d'inviter des gens à dormir. Les premières 2 semaines, on peut très bien comprendre. Mais pendant 6 mois, il y a une situation comme ça qui se prolonge, avec petit à petit l'émergence des gros problèmes sociaux, les gens qui boivent énormément d'alcool, une situation d'ennui complète parce que beaucoup de monde ne va plus au travail, parce que les lieux de travail sont fermés. Donc les journées se déroulent à l'intérieur du camp où il n'y a absolument rien à faire.
C'est ça, c'est que l'oisiveté est complètement organisée et en quelque sorte obligatoire dans ces camps.
Tout à fait obligatoire, parce qu'on a eu un gros défilé de bénévoles qui sont venus aider les habitants et qui étaient tyranniques. C'est-à-dire qu'aux habitants des camps, il est interdit de faire la cuisine, il est interdit de faire la vaisselle, ils ne font rien. Ils nettoient pas les toilettes, il n'y a rien. Rien de la vie matérielle. Dans un moment où tout s'est effrité, il n'y a rien qui permet de reprendre prise sur sa propre vie au quotidien. Donc la seule chose à faire, c'est attendre d'être servi. Avec des injonctions vraiment infantilisantes sur comment il faut se laver les mains, ce qu'il faut manger, qu'est-ce que ça veut dire manger équilibré, combien de fois tu peux te resservir ou pas te resservir, est-ce que tu as le droit de boire du café ou est-ce que tu n'as pas le droit, est-ce qu'il y a le droit de servir de l'alcool ou de ne pas servir l'alcool. Donc ça devient un lieu qui est complètement géré par l'extérieur et les habitants n'arrivent pas à reprendre le dessus de cette situation. Ils n'arrivent pas à se révolter et à voir qu'il faut qu'ils reprennent en main, du moins le camp, le temps qu'ils y sont. Et ça, ça ne s'est jamais produit.
Vous dites qu'ils n'arrivent pas à se révolter. Ils ont essayé, Michaela Di Carlo. Ils voulaient se révolter. Vous avez eu des échos de ça ?
J'irai pas jusque-là, mais ce qui m'a frappée dans cette histoire quand j'ai vu comment les camps fonctionnaient, c'est que dans les villages les plus petits, où il y avait des gens qui avaient continué à habiter, où les gens se connaissaient très très bien, ils ont réussi à prendre en main certaines choses. Notamment, par exemple, ils ont réussi à prendre en main la cuisine. Certes, c'était aussi les lieux qui étaient moins intéressants pour le pouvoir. Ça va de soi, donc il s'agissait à chaque fois d'une cinquantaine d'habitants, des choses tout petites. Mais il y a des lieux où les choses se sont quand même déroulées différemment. Et comme par hasard, c'était quand même des lieux de campagne où les situations étaient moins contradictoires et difficiles dans la cohabitation. Dans le cas des gros camps, je crois qu'effectivement, il n'y a eu aucune tentative de révolte.
Avec pourtant une emprise policière assez phénoménale, d'après ce que vous décrivez.
Tout à fait. Et je ne m'explique pas pourquoi ça n'a pas choqué les gens. Et ça continuait de ne pas les choquer pendant longtemps, parce que nous, on a eu pendant longtemps l'armée aux portes de la ville. Et je pense que les gens avaient peur, ils étaient nourris, c'est un mauvais scénario de film en fait, ils étaient nourris par la panique de gens qui seraient arrivés pour piller leur maison. Et ça, c'était un message qui était très vite donné par le gouvernement, par la préfecture, par la police, le fait qu'il y avait des ordres de pillards qui arrivaient à des autres régions pour piller les maisons de la Kula. Et il faut garder en tête que dans les campements, quelque chose qui ne manquait jamais était la télé. Donc ce temps vide où on ne sait pas quoi faire, on regarde la télé et on regarde notre propre ville à la télé, puisque nous, on ne peut plus circuler comme on circulait avant, tout est devenu plus difficile. Donc toutes les informations, tout ce qui se passe autour de nous, on le reçoit par ce moyen de communication. Et en plus, les campements étaient véritablement envahis par les journalistes qui n'ont eu aucun sens de pudeur, mais vraiment pas de pudeur du tout. L'épisode qu'on m'a raconté le plus terrible, c'est des journalistes qui demandent à une famille de faire semblant de coucher leurs enfants. Donc on est en plein journée, mais ils veulent faire un service sur la vie dans les camps. Donc on demande à la mère de mettre en scène le moment où elle couche ses enfants. Et elle se prête bien évidemment au jeu parce qu'elle va passer à la télé. Et donc, ils songent le moment de la nuit où la nuit tombe, on couche les enfants, raconte des histoires, on reparle du tremblement de terre. Donc c'était un scénario.
C'est le loft version L'Aquila.
Exactement, à tel point qu'il y a eu, moi je ne l'ai pas vu, mais il y a eu aussi une petite série télé qui se déroulait dans les campements pour raconter la vie du camp.
Est-ce que tout de même, le fait d'être en promiscuité comme ça et en proximité totale faisait que les gens se parlaient davantage peut-être, échangeaient? Est-ce qu'il y avait des lieux qui étaient un peu comme des équivalents de café où on peut aller boire un verre? On a du mal à imaginer une vie aussi désœuvrée pendant des mois et des mois.
N'ayant pas vécu dans les camps, je ne peux pas dire comment ça se déroulait, comment c'était la vie sociale. L'impression que j'en ai eue, c'est qu'elle était très pauvre, qu'il n'y a pas eu finalement des grands liens qui se sont tissés, parce que sur 6 mois, ça ne peut nourrir que des conflits. Imaginez-vous d'habiter dans une colocation, vous n'avez pas choisi vos colocataires, vous avez 50 ans, la moindre chose qui est déplacée vous énerve, vous êtes déjà nerveux parce que vous avez beaucoup de problèmes, c'est vraiment une source à conflit. Ce n'est pas vraiment une organisation qui permet de découvrir la solidarité. Et ce qui est frappant, c'est qu'à l'extérieur des camps, quand j'entendais les gens parler de leurs voisins, des gens qu'ils connaissaient, c'était toujours pour médire.
Est-ce que les choses sont un peu revenues dans l'ordre quand finalement les maisons ont été construites? Alors je le disais tout à l'heure, c'était des maisons écologiques, c'est ça?
C'est soi-disant des maisons écologiques, tout à fait. En les voyant, on ne le dirait pas complètement. Quand on dit maintenant maison écologique, c'est que ça respecte certains paramètres qui ne garantissent absolument pas que la maison soit moins polluante, mieux isolée. Un détail sur tous, c'est que les volets de la maison sont électriques. Dans une région où il y a des tremblements de terre, la première chose qui se passe avec un tremblement de terre, c'est que l'électricité saute, donc tu n'ouvres pas tes volets. Il faut quand même le faire pour des maisons antisismiques. Donc on a beau dire qu'il y a un générateur, ça marchera, mais c'est toujours possible que ça ne marche pas et que quand c'est manuel, tu sors, et quand c'est pas manuel, tu ne sors pas de chez toi. Surtout ces maisons, elles ont été présentées comme des maisons antisismiques, donc elles sont posées sur une plateforme qui est censée amoindrir le choc de la secousse. Et il s'avère qu'en fait, sur ces plateformes, on a fait des économies, qu'il y a des choses qui n'ont pas été mises, que plus de la moitié de ces plateformes ne fonctionnent pas et que sans doute, elles seraient cassées à la première secousse importante.
On leur a donné un joli nom à ces maisons, c'est les CASE, mais en fait, c'est un acronyme.
Ouais, construction antisismique écologique.
Case, ça veut dire la maison, le foyer, en italien, la casa.
Tout à fait, c'est la maison. Donc ces maisons se ressemblent absolument. Tous les appartements sont pareils, ça va de soi. On n'avait pas le droit d'y amener notre mobilier à nous, parce que le gouvernement avait fait les choses tellement bien qu'il avait voulu tout remeubler. Donc après, c'était impossible d'introduire du nouveau mobilier. Donc tous les habitants qui ont été logés dans les cases ont les mêmes meubles. Dans les maisons, il y a la télé, évidemment. Donc, il y a eu cette publicité faite par Berlusconi de la bouteille de champagne dans le frigo des habitants. On se demande à quoi ça peut bien leur servir, compte tenu des nécessités et des difficultés. Mais voilà, c'est des maisons IKEA. C'est vraiment donner, essayer de forcer les gens au coup de la modernité. C'est, quand on les voit, on a vraiment ce sentiment-là.
On pense aussi beaucoup au clonage. On a l'impression que des maisons identiques dehors, dedans, ça devient vraiment, oui, des clones.
C'est pas des habitations, c'est des endroits pour dormir. C'est des dortoirs, c'est ce qu'on peut voir dans toute grande ville, à la périphérie de toute grande ville, il y a des maisons qui sont des dortoirs. Bien sûr, les gens ont le droit de les aménager comme ils veulent, mais en fait, ils se retrouvent dans un style de vie où ils ne viennent que dormir là-bas. Et en effet, c'est un peu ce qui se produit à L'Aquila, alors que comme je disais tout à l'heure, le centre-ville était très habité. La ville a des dimensions tout à fait à taille humaine. Les gens allaient au travail, revenaient manger à la maison pour la pause de midi. Aujourd'hui, c'est impossible. On sort pour aller au travail et on revient le soir. Donc le style de la vie était complètement chamboulé. On passe un temps fou en voiture. Avant, on garait la voiture et tout le reste était fait à pied. Et maintenant, on ne sort pas de la bagnole.
Vous ne nous parlez pas des commerces, des cinémas, des lieux de vie, des espaces publics, de ce qui fait une ville, en fait.
Donc tout ça a été concentré dans le centre. Commerce dans le centre, il n'y en a pas qui est rouvert, comme je disais tout à l'heure. Il y a des cafés, il y a des bars, mais il n'y a pas de commerce. Et déjà, la réouverture des bars a été compliquée. Elle s'est faite assez vite, mais ils ont quand même rouvert dans des bâtiments qui ne respectent pas les normes, en fait. Qui sont étayés, mais qui sont en très mauvais état pour certains. Et en ce qui concerne les cinémas qui existaient dans le centre-ville, il n'y a rien qui a rouvert. Et tout ce qui a rouvert, c'est à l'extérieur. Mais en fait, il faut vraiment vous imaginer une ville qui n'aurait plus que sa périphérie. Donc, c'est impossible d'aller d'un endroit à l'autre sans prendre la voiture. Ce n'est pas une ville, en fait. C'est une ville en pointillé. C'est des îlots de choses. Donc, même la manière de les traverser, d'aller faire une course est très très différente. On ne peut pas flâner, il n'y a pas d'endroit pour flâner. Donc quand on va quelque part, on fait ce qu'il faut faire et on repart. Il n'y a pas de temps. Et quand on voit les gens, à force de voir les gens tout le temps autour d'un café, ce n'est pas la même chose que de pouvoir les voir à la maison, de pouvoir aller se promener ou de pouvoir aller au cinéma. Et il n'y a pas eu d'intelligence pour penser à une possibilité d'investir, de réinvestir le centre-ville et pour que les gens y reviennent. Et qu'il y ait du coup des pôles de socialité, de sociabilité, qui ne soient pas justement que les bars et les cafés, et qui laissent la place un peu à l'inattendu, à la rencontre hasardeuse. Ça n'a pas été pensé comme ça.
En fait, ce qui est frappant, Michaela Di Carlo, c'est que vous avez employé l'image de la banlieue, la ville dortoir. Et effectivement, on a l'impression que cette ville, qui était une ville, qui existait depuis le Moyen-Âge, en se pulvérisant, elle a laisser la place à juste une immense banlieue sans ville.
Moi, je dis qu'en fait, on a fait un bond vers le futur. Quand on était une ville qui était légèrement à la traîne, où il se passait toutes les choses qui se passent partout ailleurs dans le monde aujourd'hui, mais comme elle était une petite ville, qu'elle était enclavée dans les montagnes, il y avait une certaine lenteur, un mode de vie qui était encore un peu à taille humaine. Et en fait, le tremblement de terre nous a violemment jetés vers l'avenir. Et le pire, d'ailleurs, un avenir très cauchemardesque. Où, voilà, effectivement, c'est pour ça que j'emploie l'image de la banlieue, qui à L'Aquila n'a pas de sens. Il faut avoir vu la ville pour se rendre compte que la banlieue à L'Aquila n'existait pas. Il y avait des villages qui étaient tout près de la ville, qui avaient leur vie autonome. Bien sûr, les gens se déplaçaient pour aller travailler, mais ne font pas des énormes distances pour aller travailler. Tout d'un coup, l'organisation a complètement changé. C'est comme habiter la ville de Rome, mais sans avoir les monuments, les espaces agréables. On n'a que cette vie un peu sclérosée.
Et l'espace politique, qui est celui d'une ville ?
Dans l'espace politique, il s'est passé des choses très intéressantes parce que il y a eu une grande impuissance, une grande incapacité de réaction. Ça, c'est inscrit dans l'histoire de la ville. Il y a vraiment une difficulté, je trouve, des habitants à prendre les choses en main. C'est certes un trait de l'époque, mais c'est aussi une certaine manière de se laisser aller que je connaissais déjà auparavant. Et là, ce qui s'est passé de très étonnant et que je trouve être le phénomène le plus intéressant, c'est que les gens de ma génération, beaucoup de gens de ma génération qui étaient partis comme moi pour aller étudier, pour aller travailler ailleurs ou pour aller voir d'autres choses, sont revenus avec un sens d'attachement à cette ville, à cette région extrêmement fort et qui ont décidé de s'y réinstaller dans des conditions économiques extrêmement précaires. Mais pour ma génération, la condition économique précaire est quelque chose de connu. Donc, ça a été assumé. Et les seuls événements, à mon avis, de taille et intéressants d'un point de vue politique, c'est ce que ces gens ont fait, qui ont créé un collectif qui s'appelle le 332, donc 332. C'est l'heure à laquelle le tremblement de terre a eu lieu. Et eux, ils ont commencé par déserter les camps. Au début, ils étaient rentrés dans les camps. Ensuite, ils en sont sortis. Ils ont occupé un jardin public où ils ont construit un campement illégal, autonome, autogéré. Ils ont commencé à faire beaucoup d'initiatives. Il y avait des gens qui, ayant voyagé un petit peu, avaient des contacts dans d'autres villes, avec d'autres luttes, notamment un lien très fort avec les gens du mouvement Notav en Piémont, qu'on a vu défiler beaucoup de monde. Et quand l'hiver est arrivé, ça devenait impossible de rester dans les camps, ils ont occupé un tout petit immeuble au cœur d'un ancien hôpital psychiatrique qui est dans un parc tout près du centre-ville, vraiment à la lisière du centre-ville. Et à partir de cette petite maison, ils ont construit des baraques à côté, des caravanes, et ils ont fini par s'installer une petite dizaine. Et c'est devenu une sorte de pôle culturel où il y avait à la fois des réunions, des discussions, des débats de toutes sortes, l'organisation de concerts, et c'était aussi un endroit où on pouvait aller boire un café, boire une bière, discuter. Et donc cet endroit, il tient toujours debout, avec des énormes difficultés, des grandes difficultés aussi à trouver la manière de s'investir dans l'espace politique, d'autant plus que ce mouvement dont je parlais, ce groupe, le 30-32, s'est retrouvé confronté à la question des élections il y a maintenant 2 ans, et ils avaient fait le pari de présenter quelqu'un aux élections pour chercher d'avoir une sorte de position populaire à l'intérieur de la mairie. Et ça les a desservis beaucoup, en fait. Ils ont dû concentrer beaucoup d'énergie là-dedans, alors que jusque-là, ils avaient eu une activité politique qui était vraiment une activité de terrain, avec des limites et des difficultés, parfois aussi beaucoup de limites, mais n'empêche que c'est une expérience qui a réussi à exister et que c'est une expérience qui n'avait jamais vu le jour à L'Aquila. Moi, j'ai fait ma première réunion pour ouvrir un squat à L'Aquila quand j'avais 14 ans et j'ai vu le premier à 32. Voilà, et il y avait déjà la première réunion à laquelle j'avais assisté qui avait déjà 30 ans et qui avait déjà fait des réunions pendant 15 ans. Donc, il y a quelque chose qui, tout d'un coup, s'était débloqué et qui a donné du courage. Le courage de dire, ben non, on s'approprie les lieux, c'est notre ville, c'est nous qui voulions décider. Après, d'un point de vue, par contre, d'une vision politique complexe, ça, je pense que ça manque, ça fait cruellement défaut. Les gens qui ont eu le courage d'occuper des lieux se sont trouvés dans un style de vie que je pense leur a permis de pas mal changer leur point de vue et surtout d'évoluer, et que maintenant ils ont une vision de la réalité qui est beaucoup plus nuancée, complexe que ce qu'ils avaient avant. Mais il n'y a pas un mouvement, il n'y a pas un groupe qui a les idées claires. Et en fait, on est un peu à la traîne de ce que la presse dit, de ce qui sont les mots d'ordre en italien en ce moment, la légalité, la transparence, la démocratie participative, qui sonnent très creux, en fait, dans un endroit qui est dans une situation si détruite, en fait. Donc, un exemple que je peux donner, c'est un gros débat sur l'habitat écologique qui s'est fait au cœur du centre-ville, dans la place qui était la place du marché, qu'on était entouré de ruines. On ne savait pas quand est-ce que les travaux auraient commencé. La mairie et le commissaire à la reconstruction n'avaient absolument pas présenté aucun projet d'ensemble sur la reconstruction. Et on était en train de discuter de tout ce qu'on pouvait rêver comme prestation écologique des maisons, les panneaux solaires, et tout ce qu'on voulait rajouter, en fait, et qu'on voulait demander au gouvernement, dans une situation de crise économique, on savait pertinemment qu'on n'avait pas un rond, et autour de nous, il y avait des ruines. Il n'y avait pas des choses qui avaient préforme, donc ça faisait sens de penser quelque chose de plus. Donc c'était un exercice de la pensée, sans doute pour se rassurer, parce que tout ce qu'il y avait dehors n'avait pas bougé et c'était détruit. Et donc ce type de mots d'ordre qui circulent, qu'on se réapproprie, mais qui ne sont absolument pas pertinents dans la réalité dans laquelle on vit, ont beaucoup pesé dans l'activité politique des gens à L'Aquila, avec le lot de déceptions qui suivaient ces situations. L'idée de relancer l'emploi en cultivant de vers des terres. Donc on a une intervention comme ça, je ne sais plus si c'était un ingénieur qui venait de Venise, qui nous faisait des propositions pour reconstituer l'emploi, parce qu'évidemment, donc, il y a beaucoup de... Déjà, c'était une région où il n'y avait pas énormément d'emplois, elle n'est pas très développée au niveau industriel, et les peu d'usines qui existaient avaient fermé. Donc, et le tremblement de terre les a aidés à mettre la clé sous la porte. Donc il y a aussi une question à réfléchir à comment gagner sa vie. Et donc, il y a des gens qui se sont posés la question, ils se sont dit, tiens, peut-être qu'il faut revenir à la campagne parce qu'on a l'avantage d'avoir beaucoup de terres. On est un territoire de montagne, donc on n'a pas été trop détruit. Peut-être qu'il faut faire ça. Et d'autres gens qui essayaient de voir quel type d'usine écologique. Et donc, il y avait cette proposition de produire de vers des terres. Et quand j'ai demandé, mais est-ce que vous aimeriez passer votre vie à cultiver des vers de terre? Est-ce que c'est la vie dont vous rêvez? Et qui m'a répondu non. Je dis, ben voilà, peut-être tout est dit.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la réécouter ou la télécharger sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez, outre notre revue de web hebdomadaire, un certain nombre de photos prises par Veit Stratmann au cours de ses voyages à L'Aquila. Vous pouvez également nous téléphoner au 01 56 40 36 72 ou nous écrire à Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Genepin, Anne Gouzon, mixage, Jean-Louis Deloncle, réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.